voix nue. Bonjour à toutes et à tous, à voix nue. Dernier entretien avec vous, Claude Régis. Vous avez évoqué tout au long de cette semaine comment, par l'amour de Dostoïevski, vous êtes arrivé un jour dans une salle de théâtre et vous avez commencé, grâce à Charles Dullin, à faire l'acteur, puis ensuite à rentrer dans l'univers du théâtre, qui est devenu une tribu, une passion. Comment ensuite, d'assistant, vous êtes passé metteur en scène, vous avez fait découvrir Lorca, Pinter, puis ensuite vous avez collaboré avec Duras, avec Handke, avec Nathalie Sarraute, qui vous a énormément influencé, avec qui vous avez noué une solide amitié. Et puis ensuite, vous nous avez fait découvrir, à nous, spectateurs, de très jeunes auteurs contemporains. Et vous continuez ce travail de défrichage et de découverte d'auteurs contemporains à travers le continent européen. Je crois que c'est très important de souligner à quel point vous êtes un messager européen, dans tous les sens du terme. Vous êtes aussi écrivain, vous êtes aussi poète, vous êtes aussi philosophe, vous êtes aussi amateur scientifique, lisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes scientifiques et conversant avec des scientifiques de haut vol. Vous pourriez devenir, d'ailleurs vous avez encore le temps, astrophysicien regardant les constellations des étoiles. Dans un de vos textes qui se lit de manière poétique et politique, qui s'intitule « L'ordre des morts », vous dites « Le théâtre n'est utile que s'il contient un explosif insondable, d'un ordre non clair. Le théâtre doit être le corps conducteur d'un acte de résistance concentré, plus violent et plus calme que n'importe quelle déclaration ou n'importe quel discours rationalisé. » Et on a vraiment l'impression que c'est un manifeste, ce fragment-là.
Ben oui, c'est difficile de le commenter parce que enfin les choses sont dites, il me semble. Parce que c'est simplement, je suis obligé de dire explosif insondable, justement puisque je pars en guerre contre le théâtre politique, contre le théâtre qui contiendrait des messages ou des leçons, comme disait Brecht. Donc explosif insondable. Mais aussi, c'est vrai, je pense très profondément, parce que longtemps, parce que je n'ai pas voulu faire ce théâtre politique-là, ce qui d'ailleurs, c'était dans une période où c'était impossible, c'est-à-dire que toutes les scènes de la décentralisation m'étaient fermées, parce que je faisais pas ce théâtre-là, donc j'étais suspect d'individualisme, donc de réactionnaire. Par malchance, la chevauchée s'est créée chez Cardin, donc c'était facile de mettre un label de couturier dans une vitrine. Mais en même temps, voilà, j'ai voulu dire que ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'apolitique et que je pense que le théâtre doit être nécessairement extrêmement subversif, c'est-à-dire qu'il doit révolutionner quelque chose, faire passer ce qui est dessous, que le théâtre doit être violent, comme je le disais de l'écriture dans un des entretiens, à propos d'ailleurs de la monte anglaise, de l'assimilation de l'écriture et du crime, et de la transgression d'un interdit. Et je pense qu'avec Sarah Kane, on est allé au bout de cette subversion-là. D'ailleurs, elle a dit que le théâtre devait être subversif, non seulement dans son fond, mais même dans sa forme, si tant est qu'on pouvait distinguer les deux, et que la forme exprime, ce qui est aussi extrêmement important. Et que dans cette expression de la forme, il y a aussi les silences qui sont écrits, pas seulement chez elle, chez Pinter aussi, et chez beaucoup d'auteurs contemporains. Et il y a aussi la typographie, ce à quoi on ne fait pas suffisamment attention, c'est-à-dire que si on regarde le livre de 448 Psychose, il y a des interlignes très grands, il y a des versets, des paragraphes, des lignes séparées, des lignes déportées vers la droite, des mots isolés, tantôt plus à gauche, plus à droite. Et elle insistait beaucoup, et son frère insiste beaucoup pour que les éditeurs conservent cette typographie, et qu'elle considérait que c'est une écriture. C'est-à-dire que les mots alignés sur des lignes n'auraient pas du tout la même portée, la même influence sur nous, que quand ils sont comme ça, répartis comme une partition à travers l'espace de la page, qui contient aussi donc énormément de pourcentage de blanc. Et que le silence est aussi une forme d'écriture. Donc, c'est toutes ces révolutions aussi par rapport à la notion d'écrire, la notion de publier et à la notion de lire. C'est-à-dire que ça ne doit pas se lire de la même façon. Et il faut entendre ce qui résonne dans les espaces et pourquoi un mot est isolé et pourquoi il est plutôt isolé vers la droite que retenu à gauche. Et ça aussi, c'est des sensations qui ne sont pas très claires. On peut pas beaucoup expliquer, mais on peut en tenir compte et on s'aperçoit que ça change complètement la façon de restituer le texte et que par conséquent ça change complètement la façon dont les gens le reçoivent.
Le théâtre, c'est une communauté, c'est des gens qui se retrouvent assemblés pour regarder, écouter, des gens qui sont au centre ou en tout cas dans un espace allumé. Et quand on voit, revoit, re-revoit, réécoute d'inlassable foi des représentations de 448 Psychose de Sarah Kane, donc dans une mise en scène de vous, Claude Régis, interprétée par Isabelle Huppert, dont vous faites une sorte de statue qui se tient dans un espèce de jean en cuir, les pieds complètement...
Sky.
Même, complètement...
Même pas du cuir.
Oui, du faux cuir. Les pieds complètement sur terre, mais tellement sur terre qu'on a l'impression qu'elle l'a dans, elle a les pieds dans la boue du réel et qu'elle est embourbée dans le réel. Et que le texte dit des choses d'une violence inouïe, d'une crudité extrême et qu'en même temps, ça passe en trouant, en nous trouant, nous spectateurs.
J'espère.
Mais qu'est-ce qui passe et pourquoi décidez-vous que certains textes qu'on pourrait lire après tout, emportés avec nous dans le secret de notre intimité, vous décidez de les donner à écouter?
La première chose, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai lu 448 Nuit d'insomnie, comme ça, en 2 heures, et j'ai communiqué avec le texte immédiatement, donc j'ai tout de suite eu envie de le faire. Et c'est vrai que dans ce même temps, j'ai pensé à Isabelle Huppert tout de suite, que je connaissais un peu, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, Jeanne au Bûcher.
Vous l'aviez à l'Opéra Bastille, littéralement suspendu dans les airs.
Oui, mais alors voilà, on dit je l'ai suspendu, on croit que les metteurs en scène sont sadiques, mais ce qu'il a suspendu, c'est l'architecture catastrophique des théâtres à l'italienne. C'est-à-dire que si on fait des étages extrêmement hauts et qu'on laisse les acteurs en bas, les gens du haut voient une fourmi. Et que par conséquent, pour compenser cette catastrophe, on est forcé de remonter l'image.
Donc après suspendu Isabelle Huppert, vous l'avez mise à terre.
Je l'ai mise à terre,
mais je l'ai
quasiment clouée de la même façon. Mais c'était pour répondre à cette injonction de Sarah Kane qui dit « rien qu'un mot sur une page, il y a le théâtre ». Donc il ne s'agit pas de faire du spectacle, de faire du remplissage de la représentation. Et en même temps, je dis ça, mais on n'est pas si intelligent que ça. Simplement, on essaye aussi. Hein. Et j'ai essayé de la faire bouger, j'ai essayé de la faire passer dans les fonds, j'ai essayé de faire que l'acteur qui dialoguait avec elle passe devant, qu'il y ait des croisements. Ça marchait pas du tout. Comme quand on a essayé de faire la montée anglaise, on s'est aperçu que si on essayait de faire bouger les acteurs, ça n'avait aucun sens, que ça détruisait le texte, finalement. Donc c'est aussi de façon pragmatique qu'on s'est aperçu que l'immobilité était la plus forte et que dans le temps où on a découvert qu'elle était immobile, on a immédiatement compris qu'il fallait par contre que la lumière change énormément. Et et change autour d'elle. Et donc, la modifie complètement son apparence et modifie complètement les états de réalité et même la personnalité, ce qui se rencontre très bien parce qu'Isabelle est quelqu'un qui a ce don extraordinaire de changer de personne et d'âge d'un instant à l'autre et que, en même temps, la maladie conduit à la démultiplication des personnalités. Donc, tout tombait juste. Et tombait juste dans cette immobilité. Et que, je crois que c'est la première fois qu'Isabelle, non, parce que dans Jeanne Aubuchet, elle descendait une fois de son mât, parce que c'était demandé par Claudel. Mais là, le fait d'être littéralement cloué comme en observation, et d'être comme transparente pour laisser complètement se voir ce que vous appeliez l'essence du texte, et que la violence en soit beaucoup plus grande parce que on ne faisait rien de spectaculairement violent, et qu'on laissait simplement la violence du texte agir sur chaque personne. Et on s'aperçoit d'ailleurs que ces textes qu'on considère comme limites, parce que elle est en train de décider de se tuer et elle est en train d'essayer de nous faire vivre, elle l'a réussi d'ailleurs, pendant 2 heures à nous faire vivre sa propre mort et sa propre maladie, et aussi la maladie, la destruction physique qui est causée par le traitement des drogues médicales. Et tout ça, on voit que c'est en nous. On voit pas du tout que c'est un cas spécial. On voit que ce côtoiement de la folie, ce côtoiement aussi de l'intoxication par toutes sortes de médications et de traitements psychiatriques et psychanalytiques, on voit que la fréquentation de la mort, que la prévision de notre mort, que l'organisation de notre propre mort, que ce dialogue avec notre mort prochaine, que tout ça est parfaitement commun à tous. Il n'y a pas besoin d'être enterré ni d'être à Sainte-Anne.
Dans un de vos textes, l'état d'incertitude, vous citez Héraclite qui dit: s'il n'attend pas, il ne découvrira pas le hors d'attente qui est mon introuvable et vers quoi il n'y a pas de passage. Et on a l'impression que finalement, c'est ce que vous ne cessez de faire, essayer de rejoindre l'introuvable depuis une bonne cinquantaine d'années.
Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Donc, cette phrase d'Héraclite est absolument géniale. Et elle est aussi du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc. Et là, c'est une leçon extraordinaire pour nous, et peut-être aussi pour les spectateurs, parce que justement, c'est ce manque de patience qui fait qu'on veut déjà aller vers du connu, on veut déjà reconnaître du connu et se bouger dans du connu. Et que le fait d'attendre sans rien faire, donc ça concerne aussi la passivité, et que sans cette attente, on ne découvrirait pas ce qui est, il dit, hors d'attente. Donc c'est tout ce qu'on ne peut pas attendre, donc c'est tout ce qu'on ne peut pas prévoir, donc ça dépasse complètement ce qui a trait à nos connaissances. Et en même temps, il ajoute cette chose extraordinaire, qu'il n'y a pas de chemin pour y atteindre, qu'il n'y a pas de voie pour passer. Et pourtant, on a l'impression que si on attend que les choses se manifestent, se fassent par elles-mêmes, alors peut-être qu'on peut passer où il n'y a pas de passage et qu'on peut atteindre cette chose inatteignable. C'est ce qui correspond à tout ce qu'on a pu, il me semble, dire au cours de ces entretiens. C'est quand même ça, vraiment, que j'essaye de faire. Et ça m'intéresse aussi que cette phrase, je l'ai découverte en lisant des choses sur la peinture chinoise, où le vide a beaucoup d'importance, où on dit que dans un tableau, une gravure, il y a 2/3 de vide pour 1/3 de plein. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que je l'ai même éprouvé dans l'architecture théâtrale et même à l'Opéra Bastille. Parce que maintenant, je ne peux pas jouer si l'espace de jeu n'est pas au moins 2 fois plus grand que l'espace du public. Et modifier ce rapport-là, c'est complètement modifier la réception que peut avoir le spectateur et en même temps le contact rapproché qu'il peut avoir avec l'acteur. Et je dis à l'Opéra Bastille parce qu'on avait obtenu d'avoir deux scènes au lieu d'une. Donc l'espace de la scène était doublé et se trouvait deux fois plus grand que la profondeur de la salle de l'Opéra Bastille, qui paraît quand même très grand. Donc tout était assez monumentalisé et c'est pour ça qu'il fallait épingler d'une manière surélevée ce point de focalisation, ce qui n'empêchait pas toute une image après une population de se développer dans la boue et d'ailleurs dans une espèce de nécropole, puisqu'on faisait ressurgir une histoire dont tous les participants étaient morts, et que j'ai dit dans un des entretiens à quel point c'est important que de travailler, que les vivants ne soient pas coupés de ceux qui sont morts et non plus de ceux qui ne sont jamais nés, qui n'ont pas existé. Donc c'est ce contrepoids de l'incréé qui est complètement déterminant et qui modifie complètement l'aspect de la représentation. Mais il faut absolument que la phrase d'Héraclite soit aussi vécue par les spectateurs, c'est-à-dire qu'ils soient en état d'attente et qu'ils veuillent atteindre le hors d'attente. Et, beaucoup de gens viennent écouter la musique qu'ils attendent, voir la peinture qu'ils attendent, voir le théâtre qu'ils attendent. Ils aiment revoir ce qu'ils ont déjà vu. Et ils n'aiment pas qu'on les sorte des limites du connu, parce que c'est rassurant, parce qu'il n'y a pas d'aventure, parce qu'il n'y a justement pas de hors d'attente. Donc cette phrase est complètement essentiel, mais ça m'intéresse de savoir qu'elle est dans ce livre, parce que j'ai failli la remettre dans le livre que je fais en ce moment, et ça aurait été très dommage qu'elle soit deux fois.
Il vaut mieux la remettre pour qu'on puisse la ressasser et la méditer inlassablement, parce qu'on peut passer des journées à essayer de la comprendre.
C'est assez soufflant. Hein. C'est clair, non?
En ne faisant rien, comme vous dites, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire essayer de comprendre.
En attendant que la compréhension vienne, oui.
Mais votre dernière représentation, vos dernières représentations, parce que j'ai pas envie d'utiliser ce mot de spectacle qui a été tellement galvaudé, a eu lieu dans un théâtre à Paris, au Théâtre de la Colline, et vous avez là aussi complètement modifié l'espace. Et vous avez fait en sorte que, en tant que régisseur, maître de cérémonie, guide initiatique peut-être, eh bien les spectateurs étaient mis dans une sorte de carré et à l'intérieur de ce carré se déplaçaient, selon des lignes de diagonale manifestement très étudiées, des acteurs, c'est pas des acteurs, c'était plutôt des passeurs qui venaient lire donc les psaumes de David.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que là on sentait tellement qu'il s'agissait pas d'un spectacle que j'ai voulu même renoncer
à l'idée du théâtre,
à l'idée de la frontalité. Et c'est évident que renoncer à la frontalité, c'est renoncer à l'idée d'une image que le public perçoit, puisque le public est dans quatre horizons différents. Donc personne ne perçoit la même image au même moment, et donc aucune image ne peut se former valablement pour un groupe de public. Donc ça amène forcément une circulation à peu près continue pour que l'actrice, car elle était seule, soit très proche de chaque groupe de public successivement. En fait, ce mouvement était carré, à peu près continuellement, avec quelques arrêts. Et puis, il y avait une fois, ou peut-être deux fois, une diagonale qui était très exactement la diagonale du carré. Donc, on était effectivement dans des formes géométriques, dans un carré qui, en plus, était éclairé par un carré de lumière qui était découpé dans le plafond. Et il n'y avait aucune lumière dont on pouvait voir la source. Et cette lumière qui venait donc de très haut projetait un carré très net, très géométrique sur le sol, un carré de lumière qui pouvait avoir toutes les significations qu'on pouvait. Des spécialistes ont vu une image de la Kaaba, par exemple, à la Mecque, la pierre. Mais là aussi, c'est une forme de spectacle.
De spiritualité, vous accepteriez le mot de spiritualité?
Je la revendique parce que je dis que l'esprit et le corps ne sont pas séparés. Ce que j'attaque, c'est les religions qui se sont accaparées le terme comme une chose qui leur possède, comme si on n'avait pas le droit de s'en servir. D'ailleurs, à propos des psaumes, j'ai eu des réactions de ce genre. C'est-à-dire les psaumes sont soi-disant écrits pour un rituel qui se psalmodie d'une certaine façon. Quelqu'un est venu me voir et dit « Ah, mais vous savez, à ce moment-là, toute l'assemblée se lève ». Mais je ne fais pas ce rituel-là.
J'utilise... Le théâtre n'est pas une synagogue.
Ben non, j'utilise ce texte comme appartenant à l'humanité. Et je ne sers aucune religion. Mais c'est certain.
C'est un texte très politique qu'on redécouvre, justement.
C'est pour ça que je l'ai monté, d'ailleurs. Parce que, surtout dans les temps qu'on vit, entre la guerre d'Irak et la guerre en Palestine, il y a des phrases... Très
contemporaine.
Oui.
Violente.
Mais d'ailleurs, même, quelquefois, ça pose des questions.
On se demande si c'est vraiment traduit donc, par Henri Méchoni que, ben, que c'est le vrai texte. Oui, c'est le vrai texte.
C'est le texte, je crois, bien sûr que chaque traduction est subjective, mais en tout cas, ce qu'il a essayé, c'est d'être au plus près de l'hébreu et d'enlever tout ce qui pourrait faire noble, religieux, justement, tout ce qui appartient à la déformation que l'Église donne à ces textes. Il y a ce psaume qui a servi à l'insurrection de Varsovie, qui est très violent, où on a l'impression qu'il dit « Tu nous as tués tous les jours comme des moutons à la boucherie. Quand tu nous as mis parmi les monstres au lieu de la mort ou quelque chose comme ça. » Donc c'est des termes, on se demande comment ça a pu être écrit d'une manière si précise à cette époque-là. C'est certain qu'il y avait d'autres, il y a eu beaucoup de déportations à Babylone et il y a eu sûrement des supplices, des violences dans ces guerres étaient extrêmement cruelles, extrêmement violentes, et les traitements qu'on infligeait aux vaincus étaient sûrement tout à fait d'un ordre terrifiant. Mais moi, je pense que nous avons tout à fait le droit, parce que c'est tout à fait criminel de supprimer l'esprit de l'homme, de dire que l'homme n'a pas d'esprit, et de séparer l'esprit du corps. Ça, c'est le maléfice de saint Paul, qui est un criminel, et du christianisme, qui n'a fait que continuer à inscrire ses crimes dans la chair des malheureux fidèles, à force de leur faire peur, et de nécessiter leur perdition pour que le Sauveur ait une raison d'être. C'est une aberration terrifiante, à mon avis. Donc, faire réentendre ces textes, qui certes étaient écrits par un Messie, et qui était l'ancêtre de tous les Messies qui pouvaient venir sur la Terre, mais ça rend compte à quel point la violence existait à ce moment, dont on dit d'ailleurs que c'est Dieu lui-même qui était en guerre. C'est pas David qui faisait la guerre, c'était la guerre de Dieu. Et d'ailleurs, David est le premier à s'être institué comme roi divin et avoir été désigné par Dieu pour convaincre et écraser à coup de barre de fer, comme on détruit une poterie, la population de l'ensemble de l'univers, car il s'agit, il est plusieurs fois parlé de ça, d'étendre la religion, cette religion de monothéisme qu'il fallait évidemment imposer. C'était nouveau, donc il faut beaucoup se battre pour ça. Mais après, on a vu aussi les maléfices du monothéisme qui forcément développe de l'intégrisme. Alors, tout ça, il me semblait que c'était contenu dans ces psaumes et que c'était un spectacle, justement, où vous citiez cette phrase où je disais qu'il fallait qu'il y ait une subversion absolue. Et il me semblait que c'était le cas. Alors, est-ce que c'est à cause de ça que le spectacle a été refusé par une partie importante du public? Ou est-ce pour des questions d'appartenance à des religions, ou parce qu'ils avaient l'impression qu'on avait trahi la religion, ou qu'au contraire c'était trop religieux, que la forme qu'on avait donnée par le dispositif quadrifrontal était trop loin du théâtre? Je ne peux pas analyser les raisons qui ont fait que le spectacle a été au moins aussi refusé, sûrement pour des raisons différentes, que la chevauchée sur le lac de Constance.
Claude Régis, plus vous avancez, 52 mises en scène, plus vous êtes jeune, ardent, radical, violent. Vous avez 22 ou 23 ans?
83.
Pierre Monteil, Diffé Mariani, Laure Adler, c'était toute cette semaine à Voix Nue avec Claude Régis.
En juillet 2006, Laure Adler s'entretenait avec le metteur en scène Claude Régis. Retrouvez et podcastez la série d'entretiens sur franceculture.fr.